Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. La BCE qui a baissé ses taux directeurs, moins 25 points de base. Évidemment, c'est l'événement, vous en avez beaucoup entendu parler. Christine Lagarde était ce matin l'invitée exceptionnelle de Laure Clausier dans la matinale de BFM Business. Est-ce que l'inflation est vaincue? C'est vraiment le sujet, parce que Mme Lagarde n'a pas laissé entendre qu'on pouvait forcément avoir de multiples desserrements de politique monétaire à répétition. La commission de la dette de Philippe Juvin continue ses auditions tranquillement. Alors, elle fait venir des gens. Pourquoi ? Pour comprendre. Pour comprendre quoi ? Pour comprendre les budgets que eux-mêmes sont normalement censés connaître sur le bout des doigts, car ils les votent, ces budgets. Et c'est d'ailleurs la mission première d'un Parlement, avant de s'intéresser à la GPA, la fin de vie ou autre sujet, la mission première d'un Parlement, c'est la question budgétaire. L'assurance chômage, la réforme va-t-elle trop loin ? J'ai mis cette question dans l'actualité car j'ai quelqu'un autour de cette table qui aura un avis précis. Et puis, est-ce que les boomers sont trop riches ? Est-ce qu'on a trop de riches, d'ailleurs ? Question provocatrice que Ferganazi Harry a voulu poser dans les idées de sujet qu'il m'envoie quelques heures avant cette émission. Les micros sont encore fermés, Fergan, une seconde, j'arrive. On parlera également de l'absentéisme. C'est impressionnant. Rien n'arrête l'absentéisme. 10% des seniors ont été arrêtés plus de 90 jours en 2023. 22,3 jours, c'est le nombre de jours d'absence en moyenne par salarié, ça ne cesse d'augmenter. 37% des salariés ont été absents au moins un jour en 2023. C'est la conclusion d'un baromètre publié par AG2R La Mondiale. Il y a un cas français, parce que c'est pas simplement le fait d'avoir reculé l'âge de départ à la retraite qui explique tout ça. Il y a des pays avec une retraite plus tardive qui ont deux fois moins de gens absents. Ça nous permettra de réagir aux propositions de choc de la Cour des comptes de la semaine dernière. Bonjour Fergan Aziari. Ça y est, c'est ouvert le micro. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez maintenant. Délégué général.
Sur les boomers.
Ah bah oui. J'ai des réactions d'auditeurs. Bah, c'est pas des réactions de retraités aujourd'hui.
Mais je confesse que j'ai un petit conflit d'intérêt quand on parle des boomers puisque je suis encore loin de cette tranche d'âge.
J'ai remarqué que la plupart de ceux qui veulent faire payer les retraités, ils ont moins de 40 ans. Hein. Notamment dans
mais on a de vrais arguments.
Notamment dans ceux qui viennent dans cette émission.
J'en parlerai un peu, Nicolas.
Bon. Mais je suis retraité.
La grenade.
C'est un traité, en tout cas.
Je vais quand même vous présenter, parce qu'on vous entend, c'est même pas qui vous êtes, pour le moment. Vous avez vu comme la grenade se découpe vite, c'est merveilleux, j'adore. Donc, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, et vous avez publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux éditions Les Presses de la Cité. On peut vous lire dans Le Point, on peut vous écouter chez David Pujadas tous les 15 jours. Avec nous également Gilles Berset.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez publié « Travailleurs, mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse » aux éditions De Buck. Et « Rapport du corps » qui va être publié là, bientôt.
La semaine prochaine.
Voilà.
La semaine prochaine.
Bon, on va apprendre des trucs.
Oui, il n'y a pas trop de surprises.
Rapport annuel. Mais ça fait partie des marqueurs qui sont incontournables. François Eckhall, bonjour.
Bonjour.
La commission Juvin vous a libéré, donc, pour venir ici.
Bien.
Fondateur de Fipeco.fr, professeur d'économie à Paris. Je ne suis pas allé voir les dernières actus de Fipeco, j'ai oublié ce matin.
Oh, la dernière, c'est une présentation du budget européen. C'est la semaine, mais c'est très descriptif.
Vous me racontez.
Comprendre le budget européen, parce qu'il y a le budget français, mais il faut aussi comprendre le budget européen. C'est pas si évident.
En fait, j'ai mis cette question aujourd'hui, c'est la réaction de Xavier Rago, qui était avec nous cette semaine, qui considère que c'est hallucinant que les élus aient besoin qu'on vienne leur expliquer les budgets qu'ils sont censés voter. Voilà. Et je trouve que sa réaction est assez sensée. Enfin, vous me raconterez comment ça s'est passé. Est-ce que vous pensez qu'on a gagné la bagarre? Donc, si je recommençais... Attendez, d'abord, je vous lis les mails des auditeurs. C'est Alain qui m'a écrit au sujet d'un des riches, l'observatoire des inégalités, Fergan. Il lui considère que tout ça doit se mesurer avec l'indice de Gini. L'histoire des inégalités, bon.
Oui.
Et puis, réaction aussi de Pierre, qui dit « C'est pas possible de nous taxer plus, on est à l'os en termes de taxes, l'État doit revenir à ses fonctions régaliennes sans nous taxer plus. C'est une bonne idée de ne plus indexer les prestations sociales pendant un an ou deux. » Alors, il dit pas qu'il faut désindexer les pensions de retraite, mais... je ne sais pas quel âge a Pierre. Qu'est-ce que je disais ? L'inflation, c'est gagné ? Parce que j'ai entendu Bruno Le Maire, j'avais dit 2% en mi-2024, on y est, youpi. Et là, moins 25 points de base, waouh, on se dit ça y est.
Bah écoutez, faut voir pour ce qu'il est le signal qui a été envoyé hier par la BCE et par le Conseil des gouverneurs. En mois de mai, l'inflation a augmenté par rapport au mois d'avril. C'est quand même quelque chose de remarquable. 2,6 au lieu de 2,4.
Oui.
La BCE a publié ses prévisions et a augmenté ses prévisions d'inflation.
Oui.
Et a augmenté ses prévisions de croissance. Et dans ce contexte, qui est quand même un contexte, je dirais, pas inquiétant, mais il y a un petit tilt qui se fait dans le cerveau de tous les banquiers centraux. Dans ce contexte, il y a eu une baisse des taux, donc de 25 points de base, qui a été décidée
annoncé,
par le Conseil des gouvernants.
Alors, tellement annoncé que si on l'avait pas fait, annoncé, la déception aurait été...
Mais ça signifie quoi comme signal? Ça signifie, premièrement, quand même, que le Conseil des gouverneurs et la BCE sont convaincus qu'on est bien sur un processus structurel de désinflation.
Mmh.
Mais malgré tout, la révision des prévisions d'inflation et de croissance nécessite une certaine vigilance. Et la vigilance est liée à quoi? Ben, elle est liée au fait que dans les services, et les services, c'est quasiment uniquement du coût du travail, hein,
oui.
Dans les services, on voit que l'inflation augmente. On était à 3,7, on est à 4,1. Et il y a, je dirais, une petite inquiétude, une vigilance à avoir, en tout cas, du côté salarial, pour savoir si, effectivement, on ne quitterait pas, on aurait des difficultés à finir les derniers pas qui nous ramèneraient vers la cible d'inflation, vers les fameux 2%, du fait de salaire assez dynamique.
C'est dans un contexte salaire, Gilbert.
Dans un contexte...
On a été en salaire réel négatif pendant 2 ans, donc il y a un rattrapage.
Tout à fait.
C'est normal,
fait,
et c'est tiré par l'Allemagne,
tout
en plus,
fait,
qui
mais...
déforme la moyenne zone euro.
Alors, il faut se méfier de l'Allemagne, parce que les accords...
Ils sont à 6,1%
oui,
sur un an, eux.
Tout à fait, mais...
Au premier trimestre.
On parle beaucoup des accords en Allemagne, des 12%, par exemple, dans la fonction publique.
Oui,
alors,
oui.
C'est des accords sur 2 ou 3 ans.
C'est
en,
vrai.
En l'occurrence, dans la fonction publique, c'est des accords sur 3 ans. Donc, 12% divisé par 3, avec en plus une visibilité, quand même, sur 3 ans. Pas de surprise pendant 3 ans. C'est quand même ça aussi, l'Allemagne. Parce que chez nous, c'est annuel.
Et en fait, il y a des moteurs d'inflation dans ce que vous décrivez. Il y a encore des
moteurs d'inflation. Il y a des moteurs d'inflation et il y a une toute petite inquiétude, surtout dans un contexte d'absence de gains de productivité pour absorber, en quelque sorte, ces tensions salariales. Donc, c'est là où il y a une petite vigilance tout à fait logique de la part des banquiers centraux.
Bon, quelque chose à ajouter sur les banques centrales, Fergan, vous
Moi, j'ai quand même une petite interrogation parce que on parle aujourd'hui de vaincre l'inflation alors qu'elle est encore au-dessus de 2% si ma mémoire est bonne. Je lisais il y a pas très longtemps un article de Jacques Delarosière dans Commentaire,
l'excellent Jacques Delarosière.
Tout à fait, qui lui s'insurgeait de voir que quand on parle d'objectif d'inflation à 2%, selon lui, on a complètement dénaturé ce que voulait dire cet objectif. C'est-à-dire qu'il nous dit que l'objectif de 2% doit être considéré comme un plafond à ne pas dépasser.
Mais on a modifié la définition de
tout à fait.
Absolument.
Tout à fait.
C'est une espèce de pivot maintenant.
Exactement.
On a modifié à 3 ans.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. Quand on est au-dessous des 2%, on dit qu'il faut absolument 2% d'inflation pour atteindre cette cible, alors que lui nous écrit que à la base, quand on parle d'objectif de 2%, on parle d'un maximum
à
ne pas
oui.
dépasser.
Oui, c'est juste.
Et moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'on est encore au-dessus de 2%, et beaucoup de commentateurs nous disent qu'on a vaincu l'inflation, ce qui signifie en fait qu'on s'accommode d'un taux d'inflation bien supérieur à celui qu'on voulait au départ quand on a instauré l'euro. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, si vous voulez, d'y voir une espèce d'anomalie, surtout quand on considère l'histoire de l'inflation sur le temps long. Il faut quand même se souvenir que lorsque l'Europe commence sa révolution industrielle, notamment enfin, au début du 19e siècle notamment, on a sur tout le 19e siècle aucune inflation, une inflation quasiment nulle. Tous les historiens s'accordent à dire que le 19e siècle est un âge de stabilité monétaire remarquable qu'on assimile à finalement l'âge d'or de l'étalon or classique. À ce moment-là, on a pas d'inflation, et je remarque que ça n'a pas empêché la révolution industrielle de se déployer. Quand on nous répète aujourd'hui qu'il faut absolument un peu d'inflation pour stimuler le progrès économique, il faut quand même se souvenir que l'Europe a amorcé son industrialisation dans un contexte où l'inflation n'existait pas. La rupture vient avec le XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale, on abandonne l'étalon or, on finance les guerres avec la planche à billets, et on se retrouve avec la fin de l'étalon or au XXe siècle, avec des taux d'inflation inédits. Et au XXIe siècle, on s'accommode des taux d'inflation de 2% par an en nous disant que c'est parfaitement normal et sain. Alors qu'en l'espace d'une génération, 2% d'inflation par an, enfin ça quand même, ça lamine votre épargne de plus de 30% en l'espace d'une génération. Donc dire qu'on a vaincu l'inflation alors qu'on est au-dessus de 2%, ça montre quand même qu'on a complètement intériorisé la normalité du phénomène inflationniste quand, à l'échelle de l'histoire de l'économie, l'économie à l'échelle de l'histoire moderne de l'économie, ça reste quand même des taux qui sont exceptionnellement élevés et des taux auxquels, je crois, nous ne devrions pas nous accommoder.
J'ai entendu voilà. Le message. D'ailleurs, l'un des débats qui va probablement monter, c'est de savoir si la BCE doit modifier sa cible d'inflation et probablement la rehausser. Vous vouliez réagir, Gilles Berset,
oui, deux choses, en avance. Deux choses, quand on dit qu'on a vaincu l'inflation.
D'ailleurs, on ne dit pas qu'on a vaincu l'inflation, je pose la question.
Il faut rappeler quand même qu'en octobre, en octobre 2022, on a touché les 10,6% d'inflation dans la zone euro. 10,6%. Vous voyez, l'inquiétude qu'il y avait, c'est ce qu'on a connu dans les années 70. C'est qu'à partir du moment où un choc d'offres externes nous arrive sur la tête, on n'arrive plus à sortir, en quelque sorte, d'une situation inflationniste très forte. Là, en l'espace de 3 ans, on est parvenu à revenir à proximité de la cible, à 2,6% pour le mois de mai, après 2,4%.
Fergan a raison de rappeler que c'est
au mois,
à la mine l'épargne.
Au mois d'avril. Alors, il y a des raisons pour lesquelles l'inflation, maintenant, on en a plus besoin qu'au 19e siècle. Les rigidités nominales ne sont plus les mêmes.
C'est quoi une rigidité nominale?
La rigidité nominale, ça veut dire que au 19e siècle, les salaires pouvaient baisser.
Oui, c'est vrai.
Les salaires pouvaient baisser du jour au lendemain.
Ah oui, d'accord. Rigidité nominale, ça y est.
Non. De nos jours, il y a heureusement, des protections qui empêchent, évidemment,
le SMIC
des
remises pas baisser,
en cause. Le SMIC, non. Mais il y a aussi,
de
façon contractuelle, une entreprise, sauf dans des cas particuliers, d'ailleurs, qui ont été prévus en France, les APC, on ne peut pas baisser les salaires d'une personne. Heureusement, donc, il y a des protections qui sont là, qui renforcent, en France comme ailleurs, les rigidités nominales. Pour cette raison, on a besoin d'un petit peu d'inflation. Et la règle qui a été décidée par la BCE il y a 3 ans, maintenant, de symétriser en quelque sorte la cible d'inflation.
En moyenne, autour de 2.
Ça fait que la France se rapproche de ce qui existe aux États-Unis, de ce qui existe au Royaume-Uni, de ce qui existe dans les autres pays. Dans l'ensemble des pays avancés, la cible d'inflation est à 2% et elle est symétrique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et la non-symétrie précédente aboutissait à un problème de lisibilité incroyable. Les gens ne comprenaient pas. Il faut être en dessous, mais proche d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut être en dessous, mais proche d'eux? Vous voyez, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et pour finir, on a vécu 10 ans où le problème qui était sur la table,
c'était la déflation.
C'était le manque d'inflation.
Ah oui,
et là, il y avait beaucoup de gens qui préconisaient une révision de la cible à la baisse.
Oui,
mais là, je cite Jean-Marc Daniel. J'aime bien, c'était voilà. Jean-Marc Daniel qui dit on n'a jamais vu des gens manifester contre la baisse des prix.
Pour l'inflation.
Voilà. Oui. Alors, c'est vrai que la question des rigidités, elle est, vous avez raison, elle est essentielle. Mais ces rigidités relèvent d'une construction politique. Nous avons fait le choix d'anéantir la liberté contractuelle sur le marché du travail, du logement, en supprimant les possibilités d'ajustement sectoriel en fonction de la conjoncture. Ça a aussi un coût et un prix, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose que d'avoir anéanti cette liberté contractuelle.
On ne l'a pas anéanti.
On ne peut plus ajuster les salaires
On a renforcé le droit du contrat dans ce domaine-là.
Voilà. Je pense qu'effectivement, si on fait un sondage, pensez-vous qu'il faut ajuster les salaires à la baisse pour revenir à une inflation zéro? Je ne sais pas quelle sera la réponse.
Oui, non, mais si les salaires réels sont maintenus parce qu'il y a une baisse des prix des biens et des marchandises. C'est-à-dire que si on a une baisse des salaires, c'est pas un problème en soi.
Oui. S'il faut plus parler en termes de pouvoir d'achat.
Donc sur le long terme, on a choisi quand même de vivre dans un régime monétaire qui pénalise l'épargne, et ça c'est quand même un souci, et c'est quelque chose qui est inédit dans l'histoire moderne de l'économie. Et moi je m'étonne qu'on s'accommode d'une telle situation qui, il y a 2 siècles en tout cas, aurait été jugée assez sévèrement.
Comment vous réagissez à ce que disait Xavier Rago, François Eckhall? Sa première réaction quand on a parlé de la dette, de tous ces sujets budgétaires, est-ce qu'il est venu avant? Oui, il est venu après.
Après moi.
Il était là quand, Xavier? Il était là lundi. Donc on a évidemment réagi à la décision S&P, tutti quanti. Et lui, il trouve hallucinant qu'on fasse une commission de la dette. Et qu'on ait des élus qui se mettent ensemble pour essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi on en est là, c'est quoi un budget, alors que c'est leur boulot, c'est de le voter et de savoir de quoi ils parlent.
C'est pas nouveau d'ailleurs qu'il y a des commissions de la dette. Il y en a 20 ou 30 ans des rapports sur la dette et des commissions.
Mais moi, j'ai été sensible à sa réaction. J'ai trouvé que c'était. Qu'effectivement, c'est une forme d'aveu d'incompétence.
Ouais, mais bon, moi je suis moins sévère. Hein. Je pense que je suis bien placé pour savoir. Le sujet est quand même très compliqué. Très 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 compliqué.
Vous dites que le sujet est compliqué, quel sujet est très compliqué?
tous les sujets liés aux finances publiques. Il faut bien voir, par exemple, tout simplement que là, on parle de dette publique, de déficit public, c'est de la comptabilité nationale, ça concerne l'ensemble des administrations publiques. Oui, oui. C'est pas ce que votent les députés. Eux, ils votent d'un côté une loi de finances concernant le budget d'État dans un autre système comptable, qui est la comptabilité budgétaire. À côté, ils votent une loi de financement de la sécurité sociale dans un autre système comptable, qui est celui des régimes de sécurité sociale. Et à chaque fois, il y a des particularités. La comptabilité nationale, bon, elle est harmonisée au niveau international, mais la comptabilité budgétaire française, c'est du franco-français, avec des trucs qui sont totalement incompréhensibles. Les prélèvements sur recettes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prélève sur des recettes ? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est des crédits budgétaires. Enfin, il y a des trucs qui ont des appellations complètement absurde. Et alors, déjà, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils votent, effectivement. Puis après, quand on leur parle de comptabilité nationale, ben, on leur explique, ah ben oui, ben le déficit public, la comptabilité nationale, c'est pas le même que le déficit budgétaire. Et puis c'est pas... Je pense quand même que dans les commissions des finances, il y a les députés et les sénateurs le savent, oui. La plupart, ils sont là souvent quand même depuis longtemps, donc il y en a qui maîtrisent très bien tout ça. Après, au-delà des commissions des finances, c'est vrai que beaucoup de parlementaires ne maîtrisent pas tous ces sujets, mais quelque part je les comprends hein, quand même. Moi j'essaye de leur expliquer.
J'accepte.
Mais je comprends qu'ils aient du mal à comprendre.
J'aime
sensible, je le crois.
J'aime ce souci de détail, mais très objectivement cette commission Juvin de la dette, elle vous entend pour comprendre les arcanes que vous décrivez ou pas ? C'est ça, les questions portent là-dessus ? Ben voilà.
Non.
Les questions, c'est pas ça la question qu'on va vous poser.
La question, ça, elle était totalement différente.
C'est quoi ?
La question de la commission, celle à laquelle j'ai commencé à répondre, c'est voilà, la dette publique a augmenté de 911 milliards d'euros entre la fin 2016 et la fin 2023. Macron, qu'est-ce qui explique ça ?
Voilà,
c'est un autre sujet qui est un peu plus économique. C'est pas voilà, et donc je raconte ce que j'ai répondu.
Mais bien sûr, vous allez raconter ce que vous avez répondu.
J'ai commencé par jurer. En levant la main droite, que je dirais la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Hein. C'est une commission d'enquête. Donc c'est tu là.
Non, mais vous êtes.
Tu peux voilà, prépare-toi.
Non, parce qu'il va y. Gilbert va être entendu. Mais oui, vous êtes redevable devant les tribunaux si on prouve que vous êtes
redevable devant les tribunaux si je mens devant une commission d'enquête.
Oui,
donc ce que je leur ai expliqué.
Je vous ai pas demandé de lever la main droite, moi.
Voilà.
Donc vous avez le droit de mentir là, ici.
Et donc je leur ai expliqué les 911 milliards d'euros de dette. Ça pouvait expliquer comme ça. D'abord, quand Macron a été élu en 2017, le déficit public, il n'était pas à zéro. Il était à 3,8% du PIB. Et si on n'avait rien fait, et si le déficit public était resté à 3,8 points de PIB pendant toute cette période, la dette aurait de toute façon augmenté de 660 milliards d'euros. Ça, c'est le poids de l'histoire. C'est le poids de 50 ans de politique économique et de déficit public en France. Bon.
Donc la déformation mécanique de la dette sans rien
mécanique
faire
en euros. De toute façon, voilà. Le point de départ était tel que... Voilà.
Après,
économiquement, ce n'est pas le déficit public de 2016. Il faut prendre un déficit structurel, etc. Donc, je leur ai dit, on peut faire des tas d'hypothèses. C'est au moins la moitié des 911 milliards qui s'expliquent par l'héritage de l'histoire. Bon. Après, évidemment, la chute du PIB en 2020 explique un certain nombre de choses, mais c'est assez largement compensé par le fait que les années 2017 à 2019, en fait, ont été très bonnes,
oui,
en termes de croissance. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu un rebond de l'activité, les recettes ont augmenté un peu plus vite, spontanément, que l'activité. Et donc, au total, je veux dire, la conjoncture, je dirais, dans les années 2017-2023, la conjoncture explique moins de 10% des 911 milliards. Et donc le reste, c'est-à-dire un tiers, à peu près.
Ça veut dire que quand on dit toujours Covid, Ukraine, il ne faut pas exagérer.
Le strict impact du Covid de l'Ukraine sur le PIB et sur les recettes fiscales, c'est moins de 10% parce que c'est compensé par des très bonnes recettes qui ont eu dans les années, les trois années précédentes, par exemple. Donc c'est moins de 10%. Après, le reste, en effet, c'est un tiers, c'est
tout ce qui a été fait dans les années 2017-2023 pour augmenter ou baisser les dépenses publiques et les recettes publiques. Voilà, donc là-dedans, il y a, c'est un grand fourre-tout dans lequel il y a tout ce qui a été fait pour le Covid, il y a les baisses d'impôts, mais il y a aussi eu des économies. Hein. On oublie, mais en 2017-2018, les dépenses publiques ont très très peu augmenté. À cette époque, on avait commencé par faire des économies. Donc tout ça, ça représente à peu près, disons, un tiers. Voilà. Donc ça.
Alors quand on fait des économies, comme on a besoin d'argent, on va l'emprunter.
Oui.
Voilà, non, mais c'est juste pour terminer les. Et donc voilà, vous avez voilà, rebouclé.
Donc ce que je dis, mon message, c'est le leg de l'histoire, c'est quand même l'essentiel hein, dans cette histoire. Donc c'est pas la dette publique, il faut pas incriminer le gouvernement actuel, etc. C'est tous les gouvernements français depuis 50 ans. Voilà. Donc c'est pas voilà. Après, ce que je dis aussi, c'est que quand on fait des comparaisons quand même dans le temps et dans l'espace, plutôt que de raisonner en euros, il faut mieux raisonner en points de PIB, parce que un euro aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'un euro il y a 20 ans et 1 euro à Malte ou à Chypre. Donc, si on raisonne en points de PIB, la dette a augmenté sur cette période de 12 points de PIB, fin 2016 à fin 2023. 12 points de PIB, on a fait, je dirais, pire à certaines périodes précédentes, notamment quand il y a eu des récessions. On a fait pire dans la période 92-97, hein, c'est une récession 93, c'était la droite hein, à l'époque au gouvernement, j'ai dit ça pour Juvin, et on a fait pire sous la période Sarkozy.
En point de PIB.
En point de PIB. Donc voilà, après pour faire plaisir à Juvin, je lui ai dit, oui mais, si on, en comparaison internationale, sur la période 2016-2023, il est vrai que les 12 points de PIB de hausse de la dette publique française, c'est le plus mauvais résultat des pays de la zone euro. On est le pays où ça a le plus augmenté. Donc ça, ça lui a fait plaisir.
Il y a un cas franco-français. Bon, j'adore la démonstration. Non, c'est juste un pur bonheur de vous écouter. Et je vous fais réagir, bien sûr, à ce que nous a raconté, François Eckhall dans un instant. On marque une pause. Puis vous me direz si vous partagez quand même cette espèce de cri du cœur de Xavier Rago que j'ai trouvé assez sensé, quand même. Ça a fait pas mal réagir, hein, les auditeurs. Je regarde d'ailleurs vos réactions. On se retrouve dans un instant.
Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
J'ai pas pris le temps de regarder vos réactions, mais je vais essayer de le faire quand même. Nous sommes avec Ferhan Ezzehari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, qui a publié Les écologistes contre la modernité, Le procès de Prométhée, édition Les presses de la cité. Gilles Bercel, professeur d'économie à Neoma Business School, auteur de Travailleurs mais pauvres, inégalité et lutte contre la pauvreté laborieuse, aux éditions de Bock, et François Eckhall, fondateur de Fipeco.fr. Vous partagez le cri du cœur de Xavier Rago, Gilles Bercette, quand même, ces élus ont-ils besoin d'avoir... Est-ce qu'en plus, vous êtes nombreux à défiler, François, il y a des gens
j'ai l'impression.
Mathieu Plagne y est allé, enfin...
Oui. J'y serai donc la semaine prochaine.
Et vous y serez... Mais...
non mais, plusieurs choses...
Ce que vient de raconter François, je pense que normalement, un élu doit avoir une petite idée, ça en théorie.
Mais il faut quand même poser comme constat, le premier constat qu'a énoncé François, à savoir que c'est très complexe, il doit faire partie des 5 à 10 personnes qui en France comprennent complètement les finances publiques.
C'est pas faux.
Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit coup de pub à son site, Fipeco, qui est la bible pour toute personne qui s'intéresse aux finances publiques, et avec beaucoup de pédagogie. Hein, justement, c'est quelque chose de lisible
et parfois technique aussi.
Parfois technique, mais
néanmoins, de désespérant. potentiellement désespérant.
Non, mais pour dire la chose de François d'une autre façon. Moi, je trouve complètement irritant l'espèce de schizophrénie politique où des gens disent ah, il y a une gabegie, il y a l'indigence dans la gestion des finances publiques, etc. Et quand on regarde leur expression politique sur qu'est-ce qu'il faut faire, moi je vois plus de dépenses, oui, moins d'impôts. Je ne vais pas prendre les parties les uns après les autres, mais il faut baisser les taxes, faut dépenser davantage, mais on pointe du doigt, par contre, les pouvoirs publics
c'est
actuels
très vrai, c'est très
pour
vrai.
Ce qui se passe au niveau des finances publiques, sans regarder, comme l'a très bien montré François tout à l'heure, sans regarder dans le rétroviseur pour voir
oui,
que...
Aucun parti n'est sérieux
voilà,
là-dessus.
Voilà. Donc, cette schizophrénie politique est absolument insupportable. Insupportable, je trouve. Mais
je suis d'accord avec vous, quand on voit LR ou... où LFI faire de la censure sur les questions budgétaires alors que leurs programmes sont des montagnes d'impôts de dépenses
supplémentaires,
il y a un moment, c'est quand même une profonde malhonnêteté.
Mais l'action, ça reflète aussi l'état de l'opinion publique française, c'est-à-dire que notre classe politique, elle est aussi à l'image de l'opinion publique française, donc il ne faut pas non plus être démago en disant « Ah, ce personnel politique est complètement corrompu », il est à l'image d'une société française qui est elle-même schizophrène, qui ne veut pas effectivement prendre la question des finances publiques au sérieux, parce que de toute façon, sur le long terme, on est tous morts après moi le déluge, donc on a tous cette mentalité-là. Effectivement, il y a un manque d'altruisme intergénérationnel qui, on le voit aussi sur la question du changement climatique, par exemple. Tout ça fait qu'en effet, les finances publiques ne sont pas prises au sérieux. La question de la dette, plus fondamentalement, pose en réalité celle de son usage. À quoi cette dette a-t-elle servi ? A-t-elle servi à féconder la croissance économique ? A-t-elle servi à semer les graines de la prospérité future ? Ou a-t-elle servi effectivement à financer des dépenses courantes, à faire de courses quotidiennes ?
On a la réponse, Fergal.
On a la réponse, effectivement. Quand on regarde la structure des dépenses publiques, je parle sous le contrôle de M. Ecal, 60% de l'augmentation des dépenses publiques ces six dernières décennies, est principalement imputable aux retraites, c'est bien ça. Donc ce sont ces dépenses-là qui ont principalement augmenté ces dernières décennies, ce qui montre en effet qu'il y a un problème d'arbitrage intergénérationnel, arbitrage entre d'un côté les investissements et la consommation. Et donc, oui, si on ne prend pas cette question-là au sérieux, eh bien, on aura non seulement effectivement des finances publiques mal conçues, mais des finances publiques qui ne sont pas tournées vers l'investissement productif et donc la prospérité nationale.
C'était le patron de la CADES qui a rappelé aux sénateurs tout récemment que la dépense sociale de la Sécurité sociale est une dépense courante, mais pas une dépense d'investissement et n'a pas vocation, comme l'État, à être payée par de l'emprunt. C'est évident, mais c'est bien de le rappeler.
Et cette dette doit être aussi mise en parallèle avec... Du coup, la croissance économique française ces dernières décennies. Quel est l'état de la croissance économique française ? Quelle est la croissance du PIB par tête en France par rapport à d'autres pays qui ont des finances publiques plus saines ? Et là-dessus, quand on se compare, effectivement, on ne se console pas vraiment.
Oui. Allez-y, Gilles Blassette.
Oui, deux choses. Je ne peux pas ne pas réagir à un point. Quand il est dit sur les six dernières décennies, les dépenses de retraite ont été l'un des principaux postes, sinon le principal, d'augmentation des dépenses publiques, oui, c'est la montée en puissance de l'assurance retraite, c'est la montée en puissance de régimes qui n'existaient quasiment pas auparavant. Donc la montée en puissance de ces régimes, maintenant, quand on se compare à d'autres pays, oui, on voit que effectivement, la France est assez haut, les dépenses de retraite, c'est à peu près 14% du PIB, 17% en Italie et 12,5% dans d'autres pays.
C'est plus en Italie.
Qui nous entourent. C'est plus en Italie.
C'est plus en Italie.
Alors, là où je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que quand on parle des dépenses de retraite, qu'on observe que ça fait 14% du PIB, quand on voit les déficits publics, quand on voit la dette, etc., la question du dénominateur est importante. La question du produit intérieur brut est importante. Et je veux répéter ce que j'ai déjà dit ici sur ce plateau. Le produit intérieur brut par habitant en France est faible. Il est faible quand on se compare à d'autres pays. Comparons-nous à un pays comme les Pays-Bas, eh bien on est à 22-23% en dessous des Pays-Bas. Et pourquoi on est à 22-23% en dessous des Pays-Bas en PIB par habitant ? Eh bien parce qu'on travaille moins du côté des jeunes, du côté des seniors, du côté des peu qualifiés. Si d'un coup de baguette magique on allait de nos 68,5% aux 82% de taux d'emploi aux Pays-Bas, pour la population âgée de 15 à 64 ans, eh bien, d'un coup de baguette magique, même en supposant que les gens qui seraient en emploi, qui rentreraient dans l'emploi, sont moitié moins productifs que la moyenne des personnes en emploi actuellement, on aurait 10 à 11 points de PIB en plus. Et avec notre taux de prélèvement obligatoire, ça ferait 140 milliards de plus dans les caisses publiques, sans rien changer.
Mais, je veux dire,
l'un des gros problèmes de nos finances publiques, c'est le PIB. Hein, c'est le PIB, voilà, c'est tout. Donc la priorité des priorités, qui est d'ailleurs celle des pouvoirs publics actuels, c'est d'augmenter le taux d'emploi, le PIB par habitant, pour augmenter le dénominateur de tous les ratios, dette sur PIB, dépenses publiques sur PIB, déficit sur PIB.
J'ai un auditeur qui réagit en disant que François Lecal annonce des résultats catastrophique en riant, parce que vous avez souvent le sourire quand vous vous exprimez, c'est vrai. Il y a un auditeur qui réagit à ce que vous disiez sur l'inflation. Le salariat du 19e siècle, sous-entendu, visiblement, ça ne le fait pas rêver.
Non, mais évidemment, ça c'est vraiment un argument qui est complètement démagogique. On ne va pas comparer la situation d'un pays qui vient tout juste d'amorcer sa révolution industrielle à celle d'un pays qui a 2 siècles de croissance économique derrière lui. La question de savoir, voilà, quelles sont les conditions qui ont permis cette révolution industrielle, et je remarque que ce sont des conditions de stabilité monétaire remarquables que nous ne connaissons plus, qui a permis de financer c'était l'âge d'or de l'épargne, de la rente, et je crois que c'était aussi un des ingrédients du succès industriel de l'Europe. Pour revenir à ce qui a été dit, après je passe la parole, on est d'accord, enfin sur le taux d'activité, on est parfaitement d'accord, on a un taux d'activité qui est trop faible, mais les finances publiques ont aussi un impact sur le taux d'activité et sur les incitations à travailler. Quand vous avez des prélèvements obligatoires qui sont très élevés, ça influe aussi sur les incitations à épargner, à entreprendre, à travailler. Et donc là, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si on nous dit, pour résorber les finances publiques, le déficit, on va devoir travailler plus, mais qu'on a des taux de prélèvements obligatoires qui sont confiscatoires, qui découragent le travail, et en particulier le travail des très qualifiés, c'est une équation qui est quand même assez compliquée.
Je me souviens de la réforme du chômage.
Oui, je me souviens. On va en dire un mot, mais je me souviens, pour illustrer ce que vous dites, quand on se prend l'énorme rigueur fiscale du début du quinquennat de François Hollande, on avait rencontré, enfin, même sur ce plateau, il y avait des professions libérales où les gars disaient « moi, je bosse plus le vendredi, quoi, parce que c'est plus la peine. » Il y a un moment... vous les avez vus quand, nos amis de Juvin et compagnie, François ?
Il y a 15 jours.
Donc on n'était pas très très loin de la décision de S&P. Je crois savoir qu'ils vous ont quand même demandé si l'incident de crédit était quelque chose qui pouvait nous menacer. Et comme toujours, vous avez répondu, il ne faut jamais dire jamais.
Ah non, il ne faut jamais dire jamais. C'est pas pour demain.
Non.
Donc j'avais, bien avant la décision de S&P, j'avais dit, de toute façon, il ne se passera rien. Donc il ne s'est rien passé, bon.
J'avais dit comme vous. Voilà.
Mais j'ai toujours dit aussi, c'est un signal d'alerte parmi d'autres, et on a un vrai problème à long terme. Ça peut arriver un jour. Personne n'avait prévu il y a maintenant quasiment 2 ans ce qui est arrivé au Royaume-Uni il y a 2 ans.
Oui,
tout d'un coup, une crise, d'accord, un changement. Mais en général, ça arrive, comme c'est arrivé au Royaume-Uni, à un moment de changement de politique économique. D'un coup, je pense qu'il ne se passera rien en France d'ici 2027, sauf dissolution ou je ne sais pas quoi, voilà. Mais normalement, il ne se passera rien, voilà. En revanche, en 2027, je ne sais pas ce qui peut arriver.
C'est ce que tout le monde dit. C'est des Liz Truss en Grande-Bretagne qui décide un mouvement de baisse d'impôts complètement hallucinant. Il faut moins d'une semaine pour que le pays se trouve avec le FMI à ses portes. Ouais. C'est quand même chaud. Ça vient vite. Hein. Christian Parizeau avait été hyper clair un jour. Il nous avait décrit par le menu la formation d'espèce d'ouragan qu'on ne voit pas venir et puis... le truc qui vous embarque en quelques heures presque. Réaction, là, vous vouliez...
Une dernière chose aussi, je voulais réagir à ce qu'a dit Gilbert Gann tout à l'heure. Quand on parle du fait, effectivement, que l'augmentation des dépenses de retraite est un phénomène naturel, je pense aussi qu'on peut discuter ce point de vue dans la mesure où cette augmentation des dépenses de retraite, elle est aussi un résultat de notre système. Nous avons fait le choix d'un système de retraite par répartition. On a un vieillissement démographique, mais on aurait pu aussi imaginer un système de retraite fondé davantage sur l'épargne qui pèse moins sur les finances publiques et sur les travailleurs. Donc on peut aussi se demander si la génération précédente, n'ayant pas assez épargné, n'a pas contribué à son échelle à faire peser le financement des retraites sur les travailleurs en lieu et place
On avance sur notre programme, allez-y, on va basculer sur l'histoire des boomers.
Je ne voudrais pas être trop long sur ce point-là, mais j'ai toujours regardé avec un petit peu d'humour cette argumentation, pour la raison suivante.
Quelle argumentation ? Dire qu'il faut un peu de capi en même temps que de la répartition ?
Non.
C'est ça.
Sur la question de l'épargne, la France est l'un des pays dans lequel le taux d'épargne est l'un des plus élevés de tous les pays avancés. Je veux dire, on n'a pas de déficit d'épargne en France. Et de déficit d'épargne épargne en France, dans tout le cycle de vie, y compris pour les seniors d'ailleurs, il n'y a pas un déficit d'épargne en France qui en quelque sorte, briderait la mobilisation de capitaux pour d'autres activités, pour l'investissement, etc. Alors après, cette épargne, on peut la drainer vers des choses peut-être plus utiles que ce qui est fait parfois en France aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est pas le déficit d'épargne qui est quelque chose dont on souffre dans notre pays. Peut-être qu'on pourrait en faire autre chose, par exemple des assurances-vie placées sur des bons du Trésor, etc. On pourrait faire un petit peu mieux qu'encourager ce genre de placement.
Les assurances-vie sur les bons du Trésor, on est bon déjà là-dessus. On a 1 400 milliards sur les 1 800 d'assurances-vie.
On pourrait faire autre chose de notre épargne.
Ah oui, d'accord.
C'est ce que je veux dire par là.
Mais je ne sais pas si on est sur le même sujet.
Si, c'est le même sujet, mais moi, je ne suis pas d'accord avec un pays n'a jamais.
On va parler des boomers.
Un pays n'a jamais trop d'épargne et trop d'épargnants. On a déjà du mal à financer aujourd'hui les retraites sans pressuriser les actifs. On va avoir des besoins de financement énormes pour la dépendance avec le vieillissement de la population. Et donc là, il y a un arbitrage qui va se poser. C'est est-ce qu'on mobilise l'épargne des vieux pour financer toutes ces dépenses ou est-ce qu'on va davantage taxer les actifs?
Et donc, mais la Cour des comptes est plutôt sur l'idée que c'est les actifs.
Ça pose un problème d'équité intergénérationnelle. Donc à chaque fois que moi je propose par exemple de baisser les retraites, on
me dit... Baisser.
Oui,
Cesser d'indexer.
Non, moi je pense qu'il faut les baisser.
Ah oui, à la grecque quoi.
Oui, oui, d'accord. Chaque fois que je dis qu'il faut les baisser, on me dit que je vais asphyxier les retraités. Mais si, en baissant les retraites, j'asphyxie les retraités, c'est bien qu'on n'a pas suffisamment épargné au cours de son existence pour supporter une mesure de réajustement entre les générations. Parce qu'il y a un problème d'équité intergénérationnelle qui se pose aujourd'hui. Et si... Si en réajustant entre les générations, on met en difficulté la génération qui arrive à la retraite, c'est qu'elle n'a pas assez d'épargne.
Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les retraités reçoivent plus qu'ils n'ont cotisé avec le système que nous avons. Ça, c'est factuel.
Mais ça, à la rigueur, pourquoi pas ? Ça, à la rigueur, pourquoi pas ? Mais la question, c'est est-ce que c'est un jeu à somme nulle ?
Bon, alors, répondez, mais pas trop long, Gilbert, parce que je veux absolument donner la parole à François là-dessus aussi.
Je peux pas quand même ne pas réagir.
Allez-y.
Quand même ne pas réagir. Il n'y a pas le retraité moyen. Le retraité moyen n'existe pas. Et dans les retraités, il y a beaucoup de diversité. Je m'autorise à répéter ici ce que j'ai écrit dans la presse, préconisé dans la presse. Je pense que dans la situation actuelle où on veut encourager le travail, il aurait peut-être été judicieux du côté des retraites, par exemple, de profiter du moment d'indexation fort des retraites au 1er janvier dernier, quelque chose de très fort, et bien de faire disparaître certaines niches fiscales qui coûtent beaucoup. Je pense par exemple aux 10% d'abattement pour frais professionnels sur d'abattement fiscal.
Hein, oui, vous l'avez déjà dit ici, vous avez mis le feu à mon compte Twitter pendant 15 jours.
Pour les retraités. Et c'est une mesure éminemment redistributive, puisque 55% des foyers fiscaux ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Je ne sais pas quel est ce pourcentage pour les retraités, mais ça veut dire que les petites retraites ne seraient pas touchées, ne seraient pas concernées par ça, et même la grande majorité des retraites moyennes. Donc ça aurait été une mesure sur les retraites qui aurait rapporté 4 milliards d'euros, qui aurait simplifié la carte fiscale, qui est particulièrement complexe dans notre pays, et puis qui, en termes d'affichage, je dirais c'est quelque chose d'important, aurait abouti à ce que l'ajustement, la consolidation fiscale qu'on pratique aujourd'hui n'est pas un seul gros poste. Pour l'instant, le seul gros poste consistant, c'est hélas la réforme du chômage à laquelle j'adhère totalement.
On va en dire
mais,
un mot.
Mais... il y a beaucoup de rabotage à côté. Il y aurait eu d'autres gros postes qui seraient associés à ça pour contribuer à la consolidation.
J'ai eu énormément de courriers de retraités depuis que vous m'avez dit qu'il y avait effectivement les fameux 10% d'abattement pour frais professionnels, qu'il y avait la question de la CSG réduite et la question de l'indexation. Et notamment un qui m'a écrit pour me dire... considérant que c'est très mal nommé abattement pour frais professionnels quand on parle des retraités, mais que l'origine de cette mesure remonte aux années 60, à un moment où on voulait rétablir de l'équité entre l'ensemble des contribuables, ceux qui étaient très mobiles et qui pouvaient éventuellement avoir des portes de sortie face à l'impôt et ceux qui ne le pouvaient pas. Et historiquement, il a raison. Historiquement, il a raison. Après, on pourrait renommer, vous voyez, enfin bref. On a dit au début de l'émission, les boomers sont-ils trop riches, François Eckhall? Et Fergan disait, bon, j'admets que ça vient de quelqu'un qui est loin encore de l'âge de la retraite. Mais vous réagissez en disant...
Je suis riche. J'admets que je suis riche.
Là, le coup de la Cour des comptes, il va probablement se passer des trucs assez durs sur les dépenses sociales. Et c'était l'histoire de passer les jours de carence de 3 à 7, c'est ouf. Ou encore de passer de 3 à 2 ans la prise en charge des longues maladies. c'est du lourd. Mais ce qu'il faut répartir la facture, pas uniquement sur les actifs et
non, mais pour revenir au sujet de la dette publique, il faut bien avoir conscience que pour simplement arriver à stabiliser la dette publique, pas en euros, on n'y arrivera jamais en euros, en pourcentage du PIB déjà, donc accepter qu'elle augmente en euros autant que le PIB. Déjà, pour arriver à ça, il faut qu'on... Et c'est en fait ce que propose le gouvernement dans son programme de stabilité, etc. Il y arrive tout juste à l'horizon de 2027, en réduisant le déficit public, et si on ne veut pas, comme le gouvernement, le faire en augmentant les impôts, il y a un peu de hausse d'impôts sur les dépenses fiscales dans le programme de stabilité. Bon, il y en a même un peu.
Mais quand on coupe les dépenses fiscales, l'effet, c'est un peu comme une hausse d'impôts.
Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Et donc, à ce moment-là, il faut faire des économies sur les dépenses publiques qui sont considérables. C'est beaucoup plus important que tout ce qu'on a fait en France jusqu'à présent sur une période équivalente. Donc, et comme les dépenses sociales, c'est plus de la moitié des dépenses publiques, les retraites, c'est le quart des dépenses publiques, on ne peut pas faire autrement. Alors après, il y a les gens qui vont vous dire, il suffit de réduire le nombre de fonctionnaires, de supprimer les gaspillages. Ça, c'est facile à dire. Oui, mais la pratique,
les montants n'y sont pas.
C'est beaucoup plus compliqué.
J'ai vu, supprimons les voitures des ministères, les plus classiques.
Rien,
voilà,
c'est C'est purement symbolique.
Même, François.
Les fonctionnaires, c'est qui ? La moitié des fonctionnaires, c'est des enseignants. Voilà. François. Et après, vous avez les policiers, vous avez les militaires, etc.
François, tu as très bien montré quand même.
Oui.
Que les collectivités locales en
oui,
termes d'emploi.
Non, mais je suis d'accord.
Évolué.
Non, mais il faut le faire. Il faut le faire.
Et donc ça veut dire
Il faut le faire. Mais c'est très difficile. C'est pas ça qui permettra au total d'avoir les quelques 80 milliards d'économies qu'on nous annonce. Donc oui, bien sûr, il faut le faire dans les collectivités locales, dans un peu partout. Les fonctionnaires, il faut réduire. Bien sûr, je suis d'accord. Mais il faut pas se faire d'illusions. C'est pas. Ça ne suffira pas. Et donc il faudra jouer aussi à sur les dépenses sociales et en particulier
sur
les retraites.
Voilà.
Que ce soit par la désindexation des retraites
ou par la,
suppression de l'abattement de 10%. En effet, c'est un moyen, en fait, de gagner de l'argent, de réduire le déficit en touchant effectivement les boomers comme moi, mais sans toucher les plus modestes, parce que les plus modestes ne bénéficient pas de l'abattement. C'est un moyen qui permet...
Et ça simplifie la carte fiscale.
Et ça simplifie, en effet, ça permet de supprimer une niche fiscale.
Vous êtes
une mesure intéressante.
Vous n'êtes pas seul, Ferganaziari.
Oui, alors moi je préférerais quand même qu'on baisse les dépenses plus qu'on supprime les niches fiscales, mais c'est un autre débat. Ceci dit, pour répondre à la question de savoir si les boomers sont trop riches ou pas, alors la réponse à cette question c'est à la fois oui et non. C'est-à-dire qu'en soi, qu'une catégorie s'enrichisse ne pose pas de problème. L'économie n'est pas nécessairement un jeu à somme nulle, et donc dans l'histoire, les vieux ont toujours été plus riches que les jeunes.
Il y a une forme de cohérence,
oui,
bien sûr.
Oui, c'est normal. Vous avez épargné pendant 40 ans, il est normal que vous ayez plus de patrimoine que le nourrisson qui vient de naître ou que celui qui
plus de moyens qu'à 20 ans, j'en ai 55.
Exactement. Donc, les vieux ont toujours été plus riches que les jeunes, et ça, c'est parfaitement normal. D'ailleurs, la seule période dans l'histoire qui fait un petit peu exception à cette règle, c'est la période des deux guerres mondiales, ce que montre d'ailleurs Piketty, parce qu'à ce moment-là, tous les patrimoines sont impactés par les destructions, donc vous avez un nivellement par le bas, mais on voit bien que personne ne va ériger 45 en une espèce d'âge d'or au motif que les parents étaient aussi pauvres que leurs grands-parents. Simplement, aujourd'hui, on a un système de retraite, et je reviens là-dessus parce que je crois que c'est l'essentiel. On a depuis 41 un système de retraite par répartition qui est un jeu à somme nulle. Et je crois que c'est l'essentiel du sujet. C'est-à-dire que jusqu'à une époque très récente, la fortune des seniors était essentiellement composée de leur épargne ainsi que celle de leurs parents via l'héritage. Aujourd'hui, c'est complètement différent. La fortune des seniors est composée de leur épargne personnelle, de l'épargne de leurs parents via l'héritage, mais aussi de l'épargne de leurs enfants et de leurs petits-enfants via le système de retraite par répartition, alors même que leurs enfants et leurs petits-enfants sont plus pauvres que leurs grands-parents. Et c'est là où il y a un système de justice intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'on a fait le choix d'un système de retraite qui est un jeu à somme nulle, là où nous aurions dû faire le choix d'un système de retraite par capitalisation qui est un jeu à somme positive, où la fortune des uns serait davantage le produit d'investissements productifs et moins le fait de prélèvements sur des actifs plus précaires et plus pauvres par essence. Et je crois que c'est le cœur du sujet en réalité, mais c'est un sujet que nous ne sommes pas pressés d'aborder.
Gilles Berset, pour agir à ça, et puis ensuite on dit
un mot
d'assurance chômage.
C'est vrai qu'un chiffre a beaucoup choqué dans le débat économique, c'est que le niveau de vie moyen du retraité est équivalent voire légèrement supérieur au niveau de vie moyen dans l'ensemble de la population. Je ne vais pas vous rassurer, il ne s'agit pas de rassurer, mais quand on voit les projections qui ont été publiées par les précédents rapports du corps, de l'an dernier, de l'année d'avant, etc., on voit que ce niveau de vie relatif, spontanément, va baisser.
Oui, ça ne me rassure pas plus que ça. Hein.
Non, mais spontanément, va baisser.
Oui, ça c'est vrai.
Il va baisser à environ, à la louche, à environ 85%. C'est-à-dire que sur quelques...
Ça veut dire quoi, va baisser à 85% de...
C'est-à-dire que là où il est de 100% du niveau de moyen de la population, avec les actifs, avec etc.,
d'accord.
Il va arriver à un niveau de 85%.
L'ensemble de la population va dépasser l'ensemble des retraités.
Très largement, et d'ailleurs dans un avenir très court, et puis ensuite, la baisse relative, le niveau relatif va continuer à baisser sur les prochaines décennies. Bon, et pour quelle raison ? Eh bien, même si les gains de productivité sont assez faibles, les salaires, beaucoup de revenus sont indexés explicitement ou implicitement sur la productivité, les retraites le sont sur l'inflation. Sous des hypothèses assez avantageuses, de ce type-là, c'est avantageuse, c'est-à-dire peu de gains de productivité, une indexation sur la seule inflation pour les retraites. Sous ces hypothèses-là, il y a une baisse du niveau de vie relatif des retraités sur les prochaines décennies, qui est régulière, qui continue et qui aboutit à environ 85%. Donc voilà, il faut quand même situer les choses dans leur... Dans leur
mais c'est pas forcément
rien à dire, la vigie des finances publiques, en entendant tout ça.
Non, c'est vrai. Après, je vais juste un bémol par rapport à ce que dit Gilbert. C'est dans le long terme.
Oui.
Voilà. Donc, ça n'interdit pas pour les prochaines années à l'horizon de 2027.
Bien sûr, ouais. Tu m'as entendu
dire que on peut peut-être anticiper ce mouvement en désindexant légèrement ou en supprimant l'abattement. Supprimant l'abattement de
10%. Mais c'est bien, François, il parle aux retraités avec le sourire pour leur dire des horreurs.
Je voudrais juste clarifier quelque chose. Moi, je ne dis pas que les retraités sont par essence trop riches. C'est pas mon propos. Je dis simplement qu'il y a des manières de s'enrichir qui sont plus ou moins saines.
Dans un système, mais je sais que vous défendez
dans un système de retraite par capitalisation, les retraités ne seraient jamais trop riches parce que leur fortune ne serait pas le fruit d'un jeu à somme nulle. Et donc, leur fortune serait le produit d'investissements productifs qui seraient profitables à tout le monde. Donc, en réalité, nos boomers sont trop pauvres. Ils sont trop pauvres parce qu'on n'a pas assez capitalisé et ils sont trop riches parce qu'on a un système de retraite par répartition qui pressurise les actifs. C'est ça le paradoxe de notre système.
Alors, un jour, il faudra que je vous mette en débat face à Jean-Marc Daniel, parce qu'il ne partage pas votre point de vue, précisément.
L'accord et le désaccord. Moi, le désaccord complet que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, en France, il n'y a pas de déficit d'épargne, et simplement, la question
d'épargne
que
privée, attention,
L'épargne privée, simplement la mobilisation de cette épargne pour être plus favorable à la croissance. Et les incitations fiscales qui existent aujourd'hui ne sont pas celles qui seraient optimales pour favoriser la croissance et la mobilisation de cette épargne pour la croissance. Le point sur lequel je suis complètement en accord, c'est que quand on parle d'inégalité, il faut prendre en compte, je dirais, le patrimoine implicite qu'ont les retraités. C'est-à-dire, on est un pays qui sert des retraites qui représentent 14% du PIB, avec un taux d'intérêt de 3%, il faut multiplier ces 14% par 30 ou par 35 pour voir quel est ce patrimoine implicite dont bénéficient les retraités en France. Et si on prenait ça en compte, l'image qu'on a des inégalités de patrimoine serait en France complètement différente à ce qu'elle est quand on ne les prend pas en compte et quand on compare les inégalités de patrimoine en France avec celles d'autres pays. Alors, pas mal de travaux sont faits sur cette question pour prendre en compte cette espèce de capital implicite. Mais il est clair que, tout retraité qui aujourd'hui apprécie sa situation financière se dit « j'ai le droit jusqu'à la fin de mes jours à tel rendement par an ». Et ça, c'est du capital implicite, c'est du rendement d'un capital implicite. Voilà. Il faut le prendre en compte quand on parle...
Alors, j'ai un auditeur qui s'appelle David qui met l'épargne française est dans les mains des plus vieux qui sont averses au risque. Cette épargne ne fait rien, elle ne s'investit pas dans l'économie, elle est ensuite transmise en héritage à des soixantenaires qui feront la même chose.
Bon. C'est plus complexe que ça.
Puis il y a peut-être des incitations fiscales qui ne sont pas les meilleures.
J'ai Monsieur Fusion qui me dit qu'il a été militaire, il est dans le privé, il pense qu'il y a des grandes améliorations de gestion possibles. Là où il était, visiblement. Alors, je sais pas si, je pense dans le public, mais il y en a sûrement aussi dans le privé. On a 1 minute 40. La réforme de l'assurance chômage. Gilbert, j'ai dit qu'elle est dure, cette réforme. Et je dis d'ailleurs que le fait de réduire des droits sans réduire les cotisations, c'est une hausse d'impôts. On n'a pas beaucoup de temps.
Oui, la dette de l'UNEDIC est quand même considérable. Donc,
50 000.
Donc si ça peut concourir à...
45 ans.
45
ans. Si ça peut concourir plus ou moins à la baisse de cette dette, c'est un bienfait pour... pour nous tous. Mais je dirais que ce qui est en train de se décider, hein, ce qui a été transmis au Conseil d'État comme projet de réforme, ne fait que nous rapprocher de pays comme par exemple l'Allemagne ou comme par exemple la Belgique qui est pris souvent comme exemple par les partenaires sociaux quand on parle de salaire. En Allemagne, pour être éligible, il faut avoir contribué, il faut avoir travaillé les 12 mois sur les 30 derniers mois. En Belgique, 312 jours sur les 21 derniers mois. Quand on fait le calcul, la règle de 3, on voit que les 8 mois sur 20 mois, on est encore un petit peu plus généreux, malgré le durcissement, effectivement, auquel ça correspond. Donc, encore une fois, on était un outlier, on partait de très loin. D'accord. Beaucoup d'études ont montré que les mauvaises incitations par des durées de prestations d'indemnisation très longues, jouer sur l'effort de recherche d'un emploi. Donc c'est, je veux dire, on a une masse de travaux académiques sur cette question-là.
Ça c'est vrai, on a beaucoup de travaux académiques.
Et donc la réduction qui se fait maintenant nous rapproche de pays qui sont autour de nous et permettront, je l'espère, de contribuer à l'augmentation du taux d'emploi. Faut voir quand même, juste un point pour finir, que l'un des résultats des réformes qui ont été engagées sur les dernières années, hein, c'est une augmentation quasiment continue du taux d'emploi. Et encore au premier trimestre de l'année, derrière la stabilité du taux de chômage, il y a une augmentation de 0,3 points du taux d'emploi.
Ils vont couper la lumière. Pardon.
Quand on est trop long, ils coupent la lumière maintenant. Vous avez échappé à la question qui tue. Est-ce que la CADES verra le jour? Enfin, est-ce que la CADES est infinie et définitive? Je voulais vous interroger là-dessus, François.
Elle est infinie.
Voilà. Elle devait disparaître en 2009. Je crois que c'est 2033 maintenant.
Oui, c'est 2033.
Ah, c'est bien.
Elle disparaîtra pas en 2033.
Non, parce que je voulais faire un peu de dépenses sociales, les arrêts de travail, tout ça. Bon, on n'a pas le temps, monsieur. Ouais, on aura toujours de la dette sociale la semaine prochaine. On pourra en parler.
Oui,
hein.
Ça sera voilà. Éternel.
Voilà. D'ailleurs, je vous fais le coup. Je vous promets quand vous venez la prochaine fois, c'est le 20 juin. Allez, la CADES est-elle mortelle? C'est bon comme question. Ça. Merci, Fergan Ezihari, Gilbert. François Eckhall. Vous me raconterez, Gilbert, la commission Juvin.
Je m'y prépare après.
À lundi, 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.